Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir tous deux les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Retrouvez, si vous le souhaitez, l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui, quatrième et dernier épisode consacré à Claire Le Maréchal, scénariste, au micro de Margot Delpierre, sur un montage et un mixage de Thomas Langlin, un entretien enregistré en décembre 2018.
Vous, ça vous plairait d'être showrunner ?
Je l'ai fait sur Sam. Ça a été compliqué parce que notre réalisatrice Valérie Guignabaudet venait du cinéma, avait amené la comédienne principale Mathilde Seignier, et donc elle avait naturellement une méthode de travail et une place qui s'est avérée omnipotente. Et si elle n'était pas d'accord avec les choix qu'on faisait, on ne pouvait pas avancer. Donc ça a été compliqué, mais c'était la mission que j'avais au départ et que j'ai tenue aussi longtemps que j'ai pu sur la première saison. Sur Au service de la France, Jean-François l'a été et il nous a associés, Jean-André et moi, beaucoup à ce processus artistique, même si on n'était pas tous les trois sur le plateau, c'est lui qui était sur le plateau tout le temps. Mais on y est allé beaucoup et autant qu'on pouvait. Et en tout cas, il nous a toujours consulté sur les choix de casting, de décor, et évidemment sur le montage, qui est une étape décisive de réécriture de la série. On n'était pas du tout décisionnaire, mais on a tout regardé, toutes les étapes, et on a donné notre avis à chaque fois qu'on nous le demandait. Et c'est un très bon moyen d'apprendre. Ne serait-ce que regarder et se familiariser avec les étapes suivantes et sur le tournage et sur la post-production. Et je l'ai fait sur un téléfilm unitaire que j'ai coproduit sur Après moi le bonheur. Évidemment, c'est différent sur un unitaire. On n'a pas les mêmes exigences que sur une série. Enfin, on a d'autres. L'exigence de qualité est la même, évidemment, mais les contraintes ne sont pas les mêmes parce qu'on est sur un format limité. C'est une aventure qui est one shot dans le temps, donc c'est pas les mêmes contraintes et les mêmes choix artistiques que quand on est sur une série où les choix qu'on fait sur le premier épisode vont avoir des implications sur tous les autres. Donc c'est pas pareil, mais j'ai été très, en tant que productrice, très impliquée dans toutes les étapes, et j'étais sur le plateau beaucoup, et on s'est très bien entendu avec le réalisateur, ce qui n'était pas gagné parce que il était assez craintif de ma présence au départ, mais je pense que ça a été bénéfique et que le film y a gagné et que les séries y gagneraient si l'auteur pouvait jouer ce rôle-là, peut-être pas systématiquement, mais en tout cas quand l'auteur et ses partenaires le souhaitent, quand c'est bien vécu, la collaboration étroite avec le réalisateur et avec le producteur, elle est fantastique pour la série. Il y a plein de scènes qu'on a réécrites au dernier moment. Si j'avais pas été là, Nicolas, le réalisateur, n'aurait pas eu le temps. Il n'aurait pas pu le faire, même si tant est qu'il en ait été capable ou qu'il l'ait voulu. C'est pas un problème d'ego ou de qualité. C'est juste que quand on est sur le tournage en train de réaliser, on n'a pas réécrit beaucoup de choses, mais il y a plein de petites choses qu'on a pu ajuster sur le moment, sur le plateau, et qui ont été meilleures au final parce que j'étais là et que j'étais à l'écoute et qu'il a pu me demander des choses, j'ai pu proposer des choses, et cette collaboration-là, elle s'est faite pour le mieux du film. Ça, c'est incontestable, je pense qu'il en serait d'accord.
On tend vers ça de toute façon, vers de plus en plus de collaborations, non ?
Oui. Oui, on tend vers ça. On sort du réalisateur omnipotent et du producteur qui sépare. Ça m'est arrivé encore. Je suis un peu vieille, mais pas si vieille que ça. De travailler quasiment dans la même pièce que le réalisateur de l'épisode sur lequel je terminais des modifications à la production, et on ne nous a même pas présenté. Je ne savais pas que c'était lui. Il ne savait pas que c'était moi. Il était en prépa dans la pièce voisine. Ça me paraissait déjà absurde à l'époque, hein, mais c'était il y a peut-être 7-8 ans. Ne pas rencontrer le réalisateur, ça n'arrive plus. Enfin, c'est sur des séries qui s'écrivent en équipe, où il y a beaucoup d'auteurs, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, c'est le directeur d'écriture ou le showrunner qui n'a pas ce nom-là, mais qui on assume la responsabilité la plus proche de ce qu'est un showrunner. Lui sera toujours en lien avec la production, le plateau. C'est indispensable, on ne fait pas une bonne série sans ça, c'est plus possible.
C'est un métier scénariste qui est en évolution encore aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Oui, et qui continuera certainement à évoluer. Après, ça dépend aussi des personnalités. Il y en a qui vont aller davantage se rapprocher de la réalisation, d'autres de la production, qui sont deux moyens de contrôler ce qu'on a fait au-delà de l'écriture. Quand on est Eric Rochant, on fait les deux. Donc, il a un contrôle total sur la série. Mais quand on vient du scénario et qu'on est que scénariste, je pense que ce sont deux moyens d'aller au bout et de pouvoir aboutir davantage ce qu'on a conçu, imaginé, et faire vivre nos personnages, parce que ce sont deux moyens possibles de garder le contrôle artistique jusqu'au bout, parce que le réalisateur, lui, sera présent jusqu'à la fin, contrairement au scénariste s'il s'arrête au scénario, et le producteur aussi, évidemment, parce qu'il est garant de la livraison de la série et de tous les choix qui sont faits, même si c'est pas lui qui prend toutes les décisions artistiques, il en est quand même partie prenante toujours.
Qu'est-ce qui vous amuse le plus, vous, dans votre métier ?
Bah, j'aime beaucoup dialoguer. C'est le moment où les scènes prennent vie, les personnages vivent. Et c'est l'étape que je préfère, d'abord parce qu'on est déjà arrivé à un stade de maturité qui permet d'accoucher. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose que moi je trouve très jouissif dans cette étape-là. Évidemment, le début, l'invention, ça l'est aussi, mais c'est quelque chose qui m'est plus difficile. Je pense que je suis plus forte et plus créative à partir du moment où je sais quelle histoire je raconte et où je me demande quelle scène, comment je vais, même à l'intérieur d'une scène, comment je vais faire jaillir ce qui est l'intention de la scène et l'humeur des personnages. Et c'est vraiment ce qui me plaît le plus, les mots. D'ailleurs, à l'origine, enfin, mon envie d'écriture, c'était plutôt la littérature, parce que le mot, parce que c'est plus que raconter une histoire. Alors évidemment, ça, y a pas de mots sans
que
histoire
l'action.
Et sans situation. Mais oui, mais j'ai appris et j'espère pas être complètement nulle dans la capacité à créer une histoire et des situations. Mais c'est une étape que je préfère partager, la création d'une histoire et d'imaginer des scènes, alors que le dialogue, c'est vraiment quelque chose un acte très solitaire. Enfin, la rédaction, pour moi, c'est un moment de plaisir que j'aime énormément.
Et vous travaillez sur quoi alors pour 2019 ?
Alors, sur une série dont j'ai un peu parlé pour TF1 International, qui est un drama familial autour d'une transplantation cardiaque et de la façon dont la rencontre entre la famille d'une donneuse et celle qui reçoit ce cœur va bouleverser la vie essentiellement de celle qui le reçoit et de sa famille, mais aussi celle de la donneuse. Et je travaille sur un long métrage avec Stéphane Cafiero, qui est adapté d'un roman qui s'appelle Joyeux suicide et bonne année, qui raconte l'histoire d'une femme qui approche de la quarantaine et qui constate que sa vie ne vaut plus d'être vécue. Mais c'est une comédie, donc elle décide en toute sérénité, parce qu'elle rencontre la mort et qu'elle rencontre quelqu'un dont elle découvre la sérénité dans la mort, elle décide de mourir. Et l'histoire raconte la façon dont ce processus de décision de mourir va la ramener à la vie. Et puis, je collabore à un autre projet de long métrage qui a été initié, qui sera réalisé par Frédéric et Valentin Potier, et qui raconte une histoire vraie de jumelles pianistes qui ont commencé une carrière fulgurante, poussées par un père très investi dans leur réussite, et qui ont été atteintes l'une puis l'autre par une maladie génétique qui les handicape et qui les empêche de jouer, et donc qui va d'abord les séparer dans la pratique de leur art, parce que l'une est frappée avant l'autre. Ce sont des vraies jumelles, elles ont toujours tout fait ensemble, elles ont grandi ensemble, et c'est absolument tragique quand l'une ne peut plus être dans l'excellence comme l'autre. Et puis, l'autre est touchée à son tour et elles vont abandonner le piano, puis y revenir en développant une technique très particulière inspirée de la rééducation qu'elles pratiquent pour retrouver l'usage de leurs mains. Et aussi qu'elles doivent à leur gémellité et qui leur permettent de jouer, se partager une partition en jouant quasiment une note sur deux. C'est pas exactement aussi simple que ça, mais les vraies jumelles qui ont vécu cette histoire, qui ont une quarantaine d'années aujourd'hui, un peu plus, s'appellent Audrey et Diane Plenet. Et Frédéric et Valentin Petit ont imaginé une adaptation de leur vie et je collabore avec eux à l'écriture du scénario qui est produit par Jean-André Irles, qui est maintenant producteur chez La Petite Reine.
Et on pourra voir tout ça quand ?
Alors, les longs métrages, aucune idée, parce que c'est un processus très incertain et on en est à la phase de l'écriture, donc c'est beaucoup trop tôt pour prévoir l'avenir des films. La série, on attend une décision de TF1 sur... on a livré 2 épisodes et selon s'ils sont convaincus ou pas, on continue ou on s'arrête. Donc on attend leur décision dans les semaines à venir. J'ai quelques autres projets de série qui sont trop jeunes pour être exposés pour l'instant, mais dont la vie va dépendre aussi de cela, parce que je ne peux pas en écrire 12 à la fois. Donc,
ah bon voilà.
Plusieurs à la fois, oui. Ça arrive fréquemment, c'est à la fois nécessaire économiquement parce que le temps du développement est long et il est très mal rémunéré. C'est beaucoup plus rentable d'aller terminer des projets quand ils sont dans l'urgence d'un tournage, d'une mise en production et où d'un seul coup, il n'y a plus d'incertitude pour le producteur, donc il peut débloquer une enveloppe parce qu'il faut absolument que ça se fasse. C'est plus difficile pour lui que de s'engager sur un projet qui n'est qu'une idée, qui va mettre du temps à se développer, à se préciser, à se vendre, puis à s'écrire. Et ça, c'est des étapes longues et où on gagne mal notre vie, alors que c'est le moment où c'est absolument décisif d'avoir du temps et de pouvoir bien travailler pour se poser les bonnes questions et prendre les bonnes directions. Parce que quand ce travail-là est mal fait, on le paye jusqu'à la fin et ça donne des mauvaises séries. Donc c'est le paradoxe de ce métier, c'est que les étapes les plus difficiles et les plus longues sont les moins bien rémunérées. Donc on est obligé aussi de multiplier les projets pour d'être à la fois sur un projet qui est en cours où on va gagner notre vie et pendant qu'on développe des projets où on la gagne pas. Donc c'est une nécessité économique. C'est aussi pour moi une nécessité artistique de ne pas faire qu'une seule chose. Sauf ça peut arriver ponctuellement, mais moi j'aime bien avoir au moins 2 projets, pas beaucoup plus, parce qu'on ne peut pas se disperser trop non plus. Mais 2 projets à des étapes de développement différents, je trouve ça salutaire parce que ça permet au cerveau de se régénérer, de s'aérer, de ne pas être en boucle. Comme j'ai tendance à travailler tout le temps, si je travaille tout le temps sur la même chose, ça peut finir par gripper la machine et devenir sclérosant. Mais...
Là, vous avez des projets très différents en cours.
Oui, et puis au service de la France, on espère faire une pièce. Donc ça c'est aussi une écriture qui est très différente, que j'ai un petit peu approchée, parce que j'ai collaboré à une pièce il y a presque 20 ans maintenant, qui s'appelle Célibataire, mais qui est actuellement remontée en Italie sous le titre Single, c'est qu'on a écrite avec Rodolphe Sand et David Talbot. Rodolphe Sand, la mise en scène, et en français en Italie. Et puis j'en ai coécrit 2 autres qui sont encore dans mes tiroirs, mais que je ne désespère pas de monter un jour. Et puis celle-ci, j'espère, pour au service de la France, j'espère qu'on réussira à lui donner vie.
Ah bah, j'ai hâte de voir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Merci encore à Claire Le Maréchal, invitée de Backstage, un podcast monté et mixé par le Jimmy McGill de cette équipe Thomas Langlin.